Bonjour mes frères et mes sœurs. Une fois encore, je vous pose la même question, la question que j'ai posée la dernière fois. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Pour le monde, cette question n'a pas de sens, car ils ne savent pas, d'une façon générale, ce qu'est le royaume de Dieu. Mais nous autres qui connaissons la Bible, qui lisons la Bible, nous savons que le Christ a promis de revenir, et lorsqu'il reviendra sur cette terre, il va établir son royaume sur cette terre. Dans ce cas, qu'est-ce que le royaume? Dans ce cas, qu'est-ce que le retour du Christ? Dans ce cas, pourquoi le retour du Christ? Je vous ai parlé de ce royaume. Nous autres membres de l'Église, nous savons que ce royaume est réel. Que le Christ est le seul être en ce bon monde, dans tout l'univers, qui pourrait changer la physionomie de cette terre. Regardez, je vous prie, où nous en sommes aujourd'hui. Regardez la corruption humaine, regardez les souffrances humaines, regardez les tragédies humaines, regardez ces guerres, ces orphelins, ces maladies. Alors, quelle est la solution? Humainement parlant, il n'y a pas de solution. Aucun médecin, aucun magicien, aucun chef de gouvernement ne pourrait changer la face de ce monde. Non, ce n'est pas possible. Il n'y a que Dieu, le Créateur suprême, qui pourrait changer. Et il va changer, et ce changement aura lieu lorsque le royaume de Dieu sera sur cette terre. Donc, la question que je vous pose, serez-vous dans ce royaume? Allez-vous entrer dans ce royaume? Y a-t-il des conditions pour entrer dans ce royaume de Dieu? Certes, la Bible est le livre d'enseignement, elle nous montre comment respecter les lois divines, comment se soumettre à la volonté de Dieu, afin de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Il n'y a absolument rien en ce bon monde que nous puissions, que nous autres humains, nous puissions donner à Dieu. Car tout ce que nous avons vient de Dieu. C'est Dieu qui donne tout, la vie, l'air que nous respirons, et en même temps, la sagesse que nous avons, la tête, l'esprit, le corps, tout ça nous vient de Dieu. Dans ce cas-là, je vous pose la question, qu'est-ce que nous pourrions donner à Dieu? Eh bien, la réponse est simple, vous savez. Nous pourrions donner nous-mêmes à Dieu, de tout notre être. Autrement dit, mettre Dieu avant toute personne, toute chose, tout rêve. Et nous soumettre à lui, car ce faisant, nous saurons que Dieu, ce qu'il a promis à nous, ce qu'il veut que nous ayons, est toujours la meilleure chose que nous puissions jamais espérer. Vous savez, hier, alors que je conduisais la voiture pour rentrer chez moi, je pensais à ces choses, je me suis dit, qu'est-ce que je peux vraiment dire à Dieu pour lui témoigner ma reconnaissance? Parce que, franchement, il n'y a rien que je pourrais dire, écoute Dieu, tu sais, je t'ai fait quelque chose, je t'ai donné quelque chose. Non, il n'y a rien. Franchement, même cette volonté de vouloir lui obéir vient de Dieu, par son Saint-Esprit. Et ces pensées m'ont vraiment réjoui, car je sais que tout ce que Dieu veut est toujours pour notre bien. Tout ce que Dieu décide est toujours pour notre bien. Tout ce que Dieu va nous faire ou bien en tête pour nous est toujours pour notre bien. Alors, dans ce cas-là, je vous pose la question que je vous ai posé la dernière fois, allez-vous entrer dans ce royaume? Car lorsque le Christ viendra, il établira son royaume sur cette terre, et nous autres qui serons changés d'être physique que nous sommes à l'être physique que nous serons, à ce moment-là donc, nous serons membres du royaume de Dieu, membres spirituels. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, nous ne sommes pas des êtres spirituels aujourd'hui, non. Nous sommes des êtres humains, physiques, mortels. D'un jour à l'autre, nous pouvons disparaître. Mais lorsque nous serons des êtres immortels, lorsque nous serons membres de l'Église de Dieu, pour ainsi dire, permanente, en permanence, autrement dit, de l'Église de Dieu, du corps du Christ, dans ce cas-là, la mort n'aura aucun pouvoir sur nous. Donc, il y a des conditions pour entrer dans le royaume de Dieu. Je répète, comme j'ai fait la dernière fois, et que la création physique n'est que la première phase de la création réelle de Dieu. Dieu a créé cette terre, ce monde, nous autres, en deux phases. La première phase, c'est la phase physique, que Adam et Ève ont connue. Ils ont désobéi à Dieu, ils sont morts. La deuxième phase est celle que, après le retour du Christ, plutôt après l'avènement du Christ, le premier avènement, le Christ nous a montré le chemin pour la vie éternelle, pour la transformation de cette création physique en création spirituelle. Tâchez de comprendre. Il n'y a que l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Christ, le Saint-Esprit, qui peut nous changer d'être physique à être spirituel. Il faut que nous recevions cet Esprit de Dieu. L'ancien Israël, les Israélites, n'ont jamais reçu le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit n'était pas encore donné. Je vous ai montré, Exode, chapitre 2, lorsque les Israélites, prisonniers à ce bon monde, en Égypte, criaient à Dieu, Dieu a eu compassion. À leur égard, Dieu a exaucé leur prière, Dieu les a fait sortir d'Égypte. De la même façon, après l'avènement du Christ, Dieu, le Christ, nous a montré la façon de sortir d'Égypte moderne afin de pouvoir entrer dans cette nouvelle terre, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu. Tâchez de comprendre, je vous prie, car ça c'est la base de la création, ça c'est la base même du but de la vie. Donc, nos ancêtres, je vous ai dit, n'ont pas voulu obéir à Dieu. Lorsque le Christ est venu, dans Jean chapitre 6, il a dit, « Personne ne peut venir à Dieu, à moi, à moins que Dieu ne l'attire, ne l'appelle. » Autrement dit, regardez, vous m'écoutez, vos membres de l'Église, ou bien vous autres qui m'écoutez par Internet, je ne sais pas, vous ne m'avez peut-être jamais eu, jamais connu, jamais entendu. Tout d'un coup, vous m'entendez parler du royaume de Dieu. Alors vous demandez, mais qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il veut dire? Eh bien, mon but est de vous exposer la réalité d'après la parole de Dieu. Le Christ a dit que personne ne peut venir à lui à moins que Dieu ne l'attire. Je suis une voix par rapport à d'autres voix. À ceux qui ne sont pas, mettons, dans l'Église de Dieu, qui ne me connaissent pas, vous m'entendez comme vous entendrez quelqu'un d'autre. Alors, comment choisir? Quelle est la voix qui dit la vérité? Pourtant, nous avons des centaines, des milliers de voix qui proclament, presque chacune d'une façon différente, une réalité différente. Comment distinguer la vérité d'entre le mensonge? La base, c'est toujours votre Bible. Prenez votre Bible, ne changez rien à la Bible, n'en retranchez rien, n'y ajoutez rien. Si la Bible dit quelque chose, acceptez-le, mettez-le en pratique et faites ce que Dieu vous dit. Ce faisant, ce sera Dieu qui va vous appeler et le Christ vous choisira dans son Église. Voilà comment on peut entrer dans l'Église de Dieu aujourd'hui. C'est la seule façon. Écoutez, chacun, ou presque, a de bonnes intentions. Les gens ne voudraient pas être dans une mauvaise église. Les gens ne voudraient pas être sur un chemin qui ne conduit pas à la vie éternelle. Dans ce cas, adressez-vous à la source même où vous avez les renseignements qui vous permettent d'entrer dans la vie éternelle. Je parle maintenant de la Bible. Vous savez, l'autre jour, j'ai reçu un coup de téléphone au bureau. Une charmante femme que je ne connais pas me dit, « Monsieur Appartient, dans un de vos sermons, vous avez dit que nous ne serons jamais parfaits, nous, membres de l'Église. » Je dis, « Non, madame, nous ne serons pas parfaits. » »« Mais la Bible dit qu'il faut être parfait. » Je dis, « Oui, la Bible dit que nous devons marcher vers la perfection. Nous devons faire tous nos efforts pour arriver à la perfection. Pour autant que nous soyons chers et sang, autant que nous ayons cette nature humaine en nous, sous l'influence de Satan, nous ne serons pas parfaits. Il y a une grande différence. L'apôtre Pierre a dit, croissez dans la... Autrement dit, augmentez votre croissance, devenez de plus en plus parfait, comme le Christ est parfait, et ainsi de suite. Croître dans la grâce et la connaissance, c'est quoi? ça marchait vers la perfection. Voyez-vous, comme je vous ai dit la dernière fois, surtout, dans ce sermon, dans cette série de sermons que je vais expliquer de façon très claire afin que même un esprit qui n'est pas familier avec la Bible puisse comprendre la logique de la Bible. Dieu aime chaque être humain. Point. Dieu veut que chaque être humain soit dans son royaume. Un point, c'est tout. Mais chaque être humain doit faire sa part. Chaque être humain doit vraiment s'efforcer de comprendre, de faire, de se soumettre à Dieu. C'est là la différence, voyez-vous. Nous ne sommes pas, nous autres, l'un meilleur que l'autre. Nous pouvons être l'un meilleur que l'autre en nous approchant davantage de Dieu. Je continue. Donc, après l'échec des Israélites, le Christ, lorsqu'il est venu, il a proclamé un évangile. Qu'est-ce que l'évangile de Dieu? Qu'est-ce que l'évangile du Christ? Marc chapitre 1, verset 14, que j'ai déjà cité, le Christ a dit, n'est-ce pas, le temps est accompli, Marc chapitre 1, verset 15, le royaume de Dieu est proche, voyez-vous, le royaume de Dieu, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voilà déjà la base. La base, c'est se repentir de nos péchés, ne pas les répéter, croire à la bonne nouvelle, c'est-à-dire du retour du Christ, et marcher dans cette direction. Voilà la base. Plus tard, je vous ai montré, l'apôtre Pierre a dit à ceux qui voulaient savoir ce qu'ils devaient faire, a dit, repentez-vous. Une fois encore, Acte chapitre 2, il dit, repentez-vous et faites-vous baptiser, je paraphrase maintenant, et vous recevrez le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous amener donc vers le royaume de Dieu. Autrement dit, l'esclavage de l'Égypte moderne. Je répète, l'esclavage de l'Égypte moderne, cette Égypte physique, peut se terminer, va se terminer lorsque nous nous soumettons à Dieu, nous nous faisons baptiser en tant qu'adultes, après le repentir de nos péchés, et que nous recevons le Saint-Esprit de Dieu. Commencez-vous à comprendre. Alors, continuons. Avant l'avènement du Christ, je parle d'il y a quelques 2 ans, de 2000 ans plutôt, les gens ne savaient pas ce que c'est que l'Église de Dieu. Ils avaient une congrégation. C'était une congrégation physique et en même temps, si vous voulez, physique et spirituelle. Lorsque le Christ est venu, il y a quelques 2000 ans, il a établi son Église. Lorsque Pierre, il a demandé à Pierre, que dit-on que je suis? Et il a dit à Pierre, écoute, l'Église de Dieu, qu'il bâtira le Christ, sera donc sur cette terre, et que ceux que Dieu appelle seront membres de cette Église, je paraphrase, et que rien ne pourra prévaudre contre l'Église de Dieu. J'ai dit tout ça la dernière fois, voilà pourquoi je vais en vitesse sur ça. Donc, il a établi son Église. Matthieu 16, 18, que j'ai cité. Ensuite, l'apôtre Paul a dit, dans l'épître de Paul aux Romains, que nous devons, nous, être juifs spirituellement parlant. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, parfois nous avons des préjugés sur les mots. Le mot juif dans l'esprit de quelqu'un, parfois, a une mauvaise signification. Hier soir, voyez-vous, là encore, je voulais voir quelques nouvelles. Ensuite, il y avait un film sur les Juifs. J'ai regardé, ça m'a énormément ému. Les souffrances humaines, surtout lors de la guerre, Deuxième Guerre mondiale. Je me suis dit, mais pourquoi? Et on voyait l'attitude des gens, surtout des Allemands à l'époque, qui détestaient les Juifs. Il y avait un Français, un petit garçon, un petit garçon tout aussi charmant, un juif, le soldat allemand a pris, vous n'êtes pas français, vous êtes juif. Venez. C'était la torture. Voyez-vous, ça fait de la peine. Et pourtant, le Christ veut que nous soyons, nous, un jour, et que nous serons juifs spirituellement parlant, c'est-à-dire être membre du peuple de Dieu, recevoir son esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, et marchait donc dans la soumission des lois qui sont et dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament. Voilà pourquoi je répète, nous devons être juifs spirituellement parlant. Je vous ai montré, je répète, le mot juif a une mauvaise signification dans l'esprit des gens, je dirais même une signification mauvaise dans ce sens que les gens pensent que tous les Israélites sont des juifs. Dans la Bible, le terme juif n'est pas synonyme d'israélite. Les 12 descendants de Jacob, dont l'un s'appelait Judas et dont les descendants sont des juifs. Il y a 11 autres fils dont les descendants ne sont pas juifs, mais sont des Israélites. Une fois que vous comprenez ceci, vous comprendrez l'importance du mot juif et aussi la place que chaque nation joue aujourd'hui. J'ai moi-même, par exemple, fait des études pour retracer l'ancêtre ou bien les ancêtres, mettons, ou bien les descendants, si vous voulez, de toute façon, des Français. Alors, le fait est que voyez-vous, si vous vous intéressez à la Bible, vous saurez où est l'Église de Dieu, vous saurez ceux qui sont appelés par Dieu, et en même temps, vous saurez que Dieu ne fait pas exception de personne, que nous soyons juifs, physiquement parlant, ou d'autres nations, nous sommes quand même des membres à venir, ou bien des membres potentiellement parlant du royaume de Dieu. Dieu veut que tous soient circoncis de cœur, comme l'apôtre Paul dit. Continuons. Le Christ, donc, que je répète, comme j'ai expliqué la dernière fois, a établi son Église. Il y a quelques 2000 ans, où est cette Église? Aujourd'hui, vous avez des centaines, voire des milliers d'églises chrétiennes qui se nomment toutes chrétiennes. Alors, comment est-ce qu'on peut distinguer, mettons, entre les divers groupes, et même les grands groupes comme les protestants, comme les catholiques, et ainsi de suite. Autrement dit, où trouver la vérité? Parce que ce sont des groupes qui se contredisent. Je répète, la réponse est toujours la même. Vous revenez à la Bible. Le Christ a établi son Église il y a 2000 ans. Où est cette Église aujourd'hui? Où était cette Église à l'époque de l'apôtre Paul? Imaginez, 20 ans après la mort du Christ et la résurrection du Christ, vous savez ce qui s'est passé? L'apôtre Paul écrivait aux Galates, « Écoutez, je m'étonne que vous vous détourniez déjà de l'Évangile. » 20 ans après, imaginez, donc où était l'Église de Dieu? Où? Toujours là, d'accord, mais les gens étaient déjà confondus, car Satan était là, comme aujourd'hui, et confond l'esprit des gens. Après quelques centaines d'années, mettons 300 ans, à peu près après la mort du Christ et la résurrection, vous savez ce qui s'est passé? Le roi Constantin, l'empereur plutôt, a voulu détruire tout ce qui est juif. Et au concile de Nicée, il a proclamé que le sabbat juif serait remplacé par le dimanche. Je vous ai dit, c'est ça. Vous pouvez voir ces détails dans les encyclopédies. Ensuite, il a détruit donc tout ce qui est juif, y compris l'Ancien Testament, les fêtes de l'Éternel. Il a remplacé la pacte d'Éternel, qui est la mort de l'Éternel, par le dimanche des Pâques, qui est la prétendue résurrection du Christ. Voilà comment les changements ont passé. Donc, 300 ans après la mort et la résurrection du Christ, le christianisme était déjà totalement tordu. C'est vrai. Donc, déjà à cette époque-là, on aurait pu demander où est l'Église de Dieu. La réponse est toujours la même. Revenez à la base. Prenez la Bible, vous verrez où est l'Église de Dieu et qui sont des membres. Continuons. Je me suis arrêté la dernière fois lorsque j'ai commencé à vous montrer qu'il y avait 7 églises selon l'Apocalypse, chapitre 2. Chapitre 3, qui se sont succédés à la mort du Christ. Et je vais vous les montrer juste brièvement, car chacune de ces sept étapes des églises de Dieu, chacune de ces églises reçoit d'abord des recommandations, ensuite des qualités qu'elles ont eues, les choses qu'elles ont faites, et ensuite toujours le même avertissement. Ne vous détournez pas de Dieu, revenez à la base et soyez victorieux jusqu'à la fin. C'est toujours, n'est-ce pas, ceux qui vaincront chaque église dans Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, reçoit le même avertissement. Ceux qui vaincront hériteront la vie éternelle. La vie éternelle est décrite par le royaume de Dieu, etc. Donc, voilà la base. Nous devons vaincre. Vaincre qui? Vaincre quoi? Notre nature charnelle, certes, Satan le diable, certes, et tout ça peut se faire, doit se faire par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Je vous ai montré que les temps, je pense que j'ai seulement parlé de deux églises. La première église, c'était l'église d'Éphèse, ensuite l'église de Smyrne, à moins que je me trompe. Donc, à l'église d'Éphèse, le Christ a dit, écoute, je paraphrase maintenant, tu as fait un bon travail, continue, mais j'ai cela contre toi. Et il a dit, c'est que tu as perdu ton premier amour. Ça, c'est triste. Quand on perd son premier amour, c'est triste. Même sur la vie, dans ce monde terrestre. L'église d'Éphèse était proche de Dieu. Mais petit à petit, les gens se sont détournés. Et le Christ a dit, écoute, il faut que tu retrouves ton premier amour, ou bien ou alors tu seras toi-même perdu. Je paraphrase. Ensuite, Smyrna était la deuxième phase dont je vous ai parlé. Et s'il a dit, écoute, à cette église-là, ne crains pas ce que le diable fait, tiens bon ce que tu auras des tribulations, mais tu dois vaincre. Je passe dessus parce que j'ai donné les détails la dernière fois. Et maintenant, laissez-moi continuer là où j'ai laissé la dernière fois, avec la troisième église. Il y avait sept après la mort du Christ, et qui, elles-mêmes, sont presque disparues aujourd'hui. Troisième église, Apocalypse 2, chapitre 2, verset 14 à 16. Le Christ a dit, « J'ai quelque chose d'utile contre toi. » Voyez-vous, après avoir dit à l'Église ce que cette Église a fait du bien, il dit, « J'ai quelque chose contre toi, dit-il, c'est que tu as des gens, dit-il, attachés à la doctrine de Baal, ou Balaam. » Là encore, voyez-vous, je ne vais pas entrer dans les détails, je ne pourrai jamais finir ce sermon. Cherchez dans la Bible, l'Ancien Testament, ce que c'était la doctrine de Balaam. Et comprenez cette doctrine avec ce que vous faites. Donc le Christ dit, « Sortez-en. » Ensuite dit-il, de même dit-il, toi aussi dit-il, verset 15, tu as des gens attachés pareillement, dit-il, à la doctrine des Nicolaïtes. Là encore, cherchez dans la Bible ce que c'est Nicolaïte. Quelle est leur doctrine? Vous verrez qu'il s'agit là d'une observance censément faite chrétienne païenne. Saint-Nicolas. Voyez-vous, je n'attaque personne, je veux seulement vous montrer ce que la Bible dit. Là encore, ce n'est pas mon sujet, je répète. Donc, cette église de Pergame, cette phase, mettait l'accent sur des observances païennes. Dieu dit, sortez-en. Verset 16, Apocalypse 2, verset 16. Repens-toi, voilà. C'est ce mot qui est toujours prédominant dans l'église, dans la Bible. Nous devons nous repentir, ce que signifie que nous vraiment changer de voie. Vous ne pouvez pas vous repentir si vous répétez la même faute le lendemain, non. Et pourtant, c'est ce que font beaucoup de gens. Écoutez, le repentir doit être sincère, profond, permanent. Certes, nous sommes humains, nous trébuchons. Mais nous devons faire un effort pour ne pas pécher volontairement et ensuite faire tout notre possible pour ne pas répéter le péché. Alors là, le Christ nous pardonnera. Donc il dit à l'église Pergame, troisième église, il dit, repens-toi, verset 16, Apocalypse 2. Sinon, dit-il, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Autrement dit, il y a un châtiment. Si cette église, n'importe quelle église, ne fait pas la volonté de Dieu, Dieu va nous châtier. Continuons. Apocalypse, chapitre 2, versets 20 à 23. Et nous entrons maintenant dans la quatrième église, Thyatire. Ce sont des églises dans certaines villes à l'époque qui aujourd'hui sont disparues, mais la leçon que Dieu nous donne à chacune de ces églises est la même. Voilà vos qualités, voilà vos défauts. Voilà ce que vous devez faire pour sortir de vos péchés, voilà ce que vous devez faire pour vous approcher de Dieu. Et en toute chose, vous devez vaincre, et si vous êtes vainqueur, voilà les récompenses. Ça, c'est le message à chacune des églises. Prenez le temps de lire ces deux chapitres, Apocalypse 2, Apocalypse 3. Vous verrez donc les renseignements ou bien les instructions que Dieu donne à chacune de ces églises. Alors, qu'est-ce qu'il dit à cette église de Thyatire? Il dit, verset 20, Apocalypse 2. Mais dit-il, ce que j'ai contre toi, après avoir parlé de cette église, c'est que tu laisses la femme, dit-il, de Jézabel, qui se produit prophétesse, enseigner, séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Là encore, je vous dis, je peux passer tout un sermon pour vous expliquer ce que c'est que sacrifier aux idoles. Les gens aujourd'hui ne pensent même pas qu'il y a certaines viandes aujourd'hui que, d'après la Bible, nous ne devons pas manger. On considère ça juif. Donc, je passe dessus. Ce n'est pas ça qui m'intéresse maintenant. Donc, il y a certaines viandes, certaines chairs d'animaux qu'on ne doit pas manger. Ça, c'est clair. Ensuite, il dit que cette phase de l'Église se porte davantage à mettre l'accent que, n'est-ce pas, elle a eu comme une femme plusieurs églises et que c'est plutôt détourné de la vérité et qu'a perdu son influence. Là encore, je répète, un jour peut-être j'expliquerai la phase avec détail. Mais il dit, je lui ai donné à cette église le temps pour se repentir et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Intéressant. Beaucoup de gens veulent se repentir, mais ne font pas les efforts pour se repentir. J'ai rencontré, vous savez, dans mon ministère, tellement de gens. Lorsque nous parlons de l'Église, de la vérité, je leur montre la vérité. La réaction est souvent pathétique. Oui, vous avez raison, mais je ne peux pas changer ma vie. J'ai une femme, j'ai mes enfants, j'ai un travail, je ne peux pas changer tout ça. Voilà, des conditions qui nous empêchent de nous approcher de Dieu. C'est exactement ce que le Christ déclare dans ses églises. Il dit, écoute, tu dois changer. L'amende sera chère, humainement parlant, mais Dieu nous donne plus que nous méritons. Ce matin, quand je disais à quelqu'un, en disant, écoute, tu sais, Dieu, tout ce que Dieu veut pour nous, c'est toujours meilleur que ce que nous voulons nous-mêmes pour nous. Et c'est vrai. C'est un peu difficile, mais c'est vrai. Tout ce que Dieu veut pour moi est meilleur que ce que je veux moi-même pour moi-même. C'est difficile à comprendre parce que, voyez-vous, humainement parlant, je veux des choses qui ne sont pas bonnes. Et Dieu le sait, donc il ne les donne pas. Alors, le conflit. Continuons. Donc, après avoir dit à cette église, Thyatire, dit-il, elle dit, écoute, Dieu a dit, écoute, change, repens-toi. Avant que ce soit trop tard, autrement tu perdras donc ta récompense. Ensuite, prenons maintenant la cinquième phase de l'Église que le Christ avait établie et qui a été donc changée un petit peu. La cinquième phase, c'est Apocalypse 3, chapitre 1 à 3. L'Église de Sardes. C'est quoi Sardes? C'est encore une ville. Il dit à l'église de Sardes, versets 1 à 3, chapitre 3, Apocalypse, il dit, « Écrit, dit-il à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu, donc les sept églises, et les sept étoiles. Je connais tes œuvres, Je sais que tu passes pour une église vivante et que tu es mort. Voilà. Autrement dit, cette église, cette phase de l'église, sont des gens qui, franchement, sont morts et ils pensent être vivants. Et quelle est la recommandation que leur donne? Verset 2, Apocalypse 3. « Sois vigilant, dit-il, affermi, reste qui est prêt de mourir, dit-il, car je n'ai pas trouvé, dit-il, tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Donc là encore, il faut changer. Mes frères et mes sœurs, lorsque nos œuvres ne sont pas parfaites devant Dieu, nous devons changer ces œuvres. Lorsque les œuvres que nous faisons ne sont pas correctes devant Dieu, nous devons changer ces œuvres. C'est ça le secret. Alors le Christ va nous récompenser. Il dit, si tu ne veilles pas, verset toujours 3, je viendrai, dit-il, comme un voleur, et tu ne sauras pas, dit-il, à quelle heure je viendrai sur toi. Lorsque vous étudiez ces églises, vous verrez que les quatre églises, dont Sardes, seront encore existantes autour du Christ, car le Christ dit « lorsque je reviendrai », alors que l'église donc sera encore vivante d'une façon ou d'une autre. Ce ne sera pas une grande église, mais vivante quand même. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des phases de l'église, de Sardes, Thyatire, etc. Mais continuons. Verset 10, chapitre 3, l'église de Philadelphie. Vous savez, lorsque vous lisez toutes les églises, chacune d'elles a reçu des recommandations, des reproches. Philadelphie est celle qui reçoit le moins de reproches, et pourtant ce n'est pas encore une église parfaite. Mais Dieu a dit une chose, et ça c'est important pour nous parce que aujourd'hui, franchement parlant, nous autres membres de l'Église de Dieu vivant, nous sommes dans cette phase de l'Église de Dieu, phase de Philadelphie. Alors, qu'est-ce que le Christ nous dit? Puisque nous sommes, nous, entre guillemets, philadelphiens, étudions sincèrement, fidèlement, les recommandations que Dieu nous donne en tant qu'Église. Je cite maintenant chapitre 3, Apocalypse, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Est-ce le cas? Est-ce que nous avons gardé nous autres individuellement de la parole de la persévérance en Dieu, en Christ? Il dit, parce que nous avons gardé, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde. Regardez voir, mes frères et mes sœurs. Le Christ parle d'une tentation qui va venir sur le monde tout entier. Nous sommes à cette époque-là, regardez autour de vous. Donc, nous sommes tous proches de ce temps. Le Christ nous a promis de nous garder, de nous protéger contre ces tentations ou bien malheurs qui vont venir. Si vous êtes membre de cette Église, avez-vous foi en Dieu? Craignez-vous ce qui se passe? Est-ce que vous vous levez le matin en vous disant, qu'est-ce qui va encore se passer aujourd'hui? Non, n'ayez pas ces craintes. Le Christ vous a dit, je te garderai à l'heure de la tentation. Couchez-vous le soir avec cette assurance. Levez-vous ce matin avec cette assurance. D'une façon générale, vous aurez le cœur tranquille. Vous aurez le sourire aux lèvres pour ainsi dire. Non pas artificiellement, mais parce que vous êtes sûr que Dieu, le Créateur suprême, est votre gardien, est votre protecteur suprême. Ce faisant, voyez-vous, vous avez l'attitude de Philadelphie. Ensuite dit-il, je viens bientôt, verset 11, Apocalypse 10. Le Christ dit, donc voyez-vous, l'église de Philadelphie doit encore exister lorsque le Christ viendra. Il dit, je viens bientôt, dit-il, retiens ce que tu as, voilà. Nous sommes dans l'église de Dieu, nous avons appris dès le commencement de la vérité. Ces derniers temps, depuis 30, 40 ans, quelques membres de l'Église, bon nombre de membres de l'Église ont lâché ce qu'ils avaient appris. Alors le Christ nous donne, écoute, retiens ce que tu avais, que personne ne prenne ta couronne, dit-il au verset 11. Pourquoi certains d'entre vous, nous, ne faisons pas attention? Nous avons appris la vérité au sujet du sabbat, au sujet des commandements de Dieu de l'Ancien Testament. Nous avons appris la vérité au sujet des fêtes de l'Éternel, au sujet de l'obéissance aux 10 commandements. Alors, nous devons retenir ces vérités. Si nous nous détournons de ces vérités, nous ne sommes plus dans l'Église de Philadelphie. C'est aussi simple que cela. Et le Christ nous dit, écoute, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Et donc, regardez voilà la récompense, verset 12, Apocalypse 3. Celui qui vaincra, dit-il, je ferai de lui une colonne dans le temple de Dieu, de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui mon nom, le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de Dieu, et mon nouveau nom. Autrement dit, nous serons transformés en êtres spirituels, membres de la famille de Dieu, totalement. Voilà des récompenses. Donc, en quelque sorte, l'Église de Philadelphie, c'est la phase dans laquelle nous devons être et continuer. Mais il y a encore une septième Église qui a ajouté à cette liste et qui s'appelle Laodicée. Apocalypse 3, versets 15 à 18. Ça, c'est intéressant parce que, voyez-vous, là, il s'agit d'une attitude. Le Christ dit, je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant. Autrement dit, tiède. Et ça n'a pas de goût. C'est une Église qui n'a pas cette décision fixe, ni froide ni chaude. Il dit, puisses-tu être, dit-il, froid ou bouillant, parce que, dit-il, tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Autrement dit, Dieu ne veut pas cette attitude. Cette attitude laodicéenne ne va pas vous permettre d'entrer dans le royaume de Dieu. Et franchement, aujourd'hui, lorsque je regarde autour de nous, je ne parle pas maintenant des églises du monde qui ne comprennent pas ces détails. Certains d'entre nous dans l'Église, de cette phase, si vous voulez, certains d'entre nous sont dans cette tiédeur. Mes frères et mes sœurs, réveillez-vous. Franchement, réveillez-vous. Dites-moi, Dieu, écoute, Dieu, je ne veux pas être tiède. Je veux être courageux pour prendre les décisions nécessaires, pour changer ce qu'il faut que je change, même si c'est un sacrifice pour moi. Eh oui, je répète, vous devez changer quelque chose qui peut être un sacrifice pour vous si ce changement est nécessaire aux yeux de Dieu. Ça peut être une séparation d'un ami, de quelque chose, je ne sais pas. Ça va être un changement de travail, je ne sais pas. Quoi que ce soit qui vous retienne dans le milieu qui vous rend tiède, sortez-en. Si vous vous adressez à Dieu, Dieu vous donnera la force. Il dit, verset 17, Apocalypse 3, il dit, parce que tu as dit, je suis riche, je me suis enrichi, voyez-vous, vous vous accrochez à ce que vous avez. J'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Les avertissements à ces sept églises dans l'Apocalypse sont à chacune des églises. Donc, aujourd'hui, chacun de nous, en quelque sorte, quel que soit le groupe dans lequel nous nous trouvons, nous avons tous ces tendances. Voyons où sont ces tendances. Nous changeons, que ce soit l'église de Laodicée, l'église de Philadelphie, les Sardes, les attitudes gentiles, changeons-les. C'est ainsi que nous pouvons nous approcher de Dieu, mes frères et mes sœurs. Malheureusement, certains d'entre nous, nous ne faisons pas ceci. Chaque phase de l'église de Dieu a besoin de changer, chaque phase a besoin de vaincre, et Dieu veut que chaque phase puisse arriver au but. Chaque phase, vous avez vu, a des avertissements, a des enseignements, et en même temps, a des récompenses. Continuons. Maintenant que nous avons vu ce que c'est que l'Église de Dieu, aujourd'hui, la plupart des églises du monde ne sont pas vraiment membres de l'Église de Dieu parce qu'elles se sont écartées de Dieu. prenons la base. Quelle est la base dans toutes ces églises que je vous ai montrées? C'est simple. Obéissance, soumission à Dieu, foi en Dieu, respect envers l'autorité et compréhension de ce que c'est que le royaume de Dieu. Pourquoi nous sommes nés? Ça, c'est la base de notre existence. Une fois que vous connaissez la raison pour laquelle nous sommes nés et les conditions pour y parvenir, voilà, le chemin est ouvert. Je connais beaucoup de gens aujourd'hui qui sont des amis, qui suivent des cours d'université. C'est bon? Pourquoi suivez-vous des cours d'université? Parce que vous voulez apprendre et vous voulez développer votre métier ou votre caractère, je ne sais. De la même façon, une fois que vous voulez apprendre votre métier de christianisme, dans ce cas-là, pratiquez-le. C'est comme des cours d'université que vous suivez. Voilà. Maintenant, vous avez devant vous ce que le Christ a dit. Il a dit que nous devons être humbles. C'est un cours d'université. Il a dit que nous devons nous respecter d'autorité. Un cours d'université. Ensuite, il a dit quelque chose de plus. Et ça, c'est difficile. Parce que certains d'entre nous, nous avons des préjugés contre d'autres personnes. Je vous ai souvent dit, et je répète, les gens d'une façon générale prétendent aimer Dieu, mais ne pas aimer tous les êtres humains. Il y a une différence entre aimer les êtres humains et approuver leur façon de vivre. Je ne parle pas de leur façon de vivre. Je ne parle pas de leur péché. Nous devons détester le péché, oui. Pas, mais non pas le pécheur. Il y a une différence. Car le Christ est mort pour chacun de nous, afin que nous puissions, nous, sortir du péché. Regardez ce que le Christ a dit en ce qui concerne votre voisin, votre prochain. 1 Jean chapitre 4, verset 20. Je cite souvent. 1 Jean 4, verset 20. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qui haït son prochain, comment peut-il aimer Dieu, dit-il, qui ne voit pas? Et dit-il, si nous avons de lui dit cette recommandation, que si quelqu'un aime Dieu, il doit aussi aimer son frère. 1 Jean, chapitre 4, verset 21. Voilà. Voilà des conditions qui semblent difficiles. Ces sentiments dans l'Église de Dieu, ces sentiments doivent aussi exister dans la famille. La famille, voyez-vous, nous autres chrétiens, nous devons respecter les recommandations que Dieu donne au sein de la famille. L'adultère est un péché. L'adultère tue l'amour entre les couples. L'adultère met une fin à une existence qui aurait pu être magnifique. Le peuple a commis l'adultère contre Dieu. Eh oui, Dieu, en quelque sorte, symboliquement parlant, a épousé Israël. Mais Dieu, Israël, a commis l'adultère, s'est séparé de Dieu. Donc, de la même façon, lorsque vous voyez ces églises, prenez maintenant la face de l'église par rapport à la famille, car Éphésiens chapitre 5, que nous lisons lorsque nous officiant à un mariage, j'en ai fait plusieurs. Il y a, lorsque vous lisez les recommandations de Dieu à l'homme et à l'enfant, et évidemment à la femme, après tout ça, Dieu dit que toutes ces recommandations sont par rapport, non pas seulement de l'homme à l'égard de la femme, mais aussi de l'humanité à l'égard de Dieu. Et n'est-ce pas, ce mystère est grand, dit-il, c'est par rapport à Christ et à l'Église. Donc, le mariage entre l'homme et la femme, c'est par rapport au mariage, à ce changement par rapport à l'homme, l'humanité et à l'Église. Voyez ce qu'il dit au verset 24, chapitre 5. En ce qui concerne la famille, mais je dis, prenez sa famille, église en même temps, parce que nous parlons d'église. Il dit, Marie, dit-il, Aimez vos femmes, verset 25, Éphésiens 5. Et voyez-vous, tout d'un coup, il entre dans le vif du sujet, comme le Christ a aimé l'Église. Voilà ce rapport. C'est ce rapport que les gens laissent de côté. Donc, comment est-ce que le Christ a aimé son Église? Il continue. Il dit, laissez-moi, il dit, afin de, verset 26, afin de la sanctifier par la parole de Dieu, après l'avoir purifié, c'est le Christ qui a fait ceci, afin de faire, dit-il, paraître devant lui cette Église glorieuse. Voyez-vous, il parle de mariage, mais en même temps, il met l'accent sur le royaume de Dieu, sur notre entrée dans le royaume, et comment l'Église doit s'unir à son corps, car le Christ est le chef de l'Église, la tête de l'Église. Ensuite, dit-il, verset 28, c'est ainsi que les maris doivent aussi aimer leur femme. Parce que comme le Christ aimait l'Église, celui qui aime sa femme, dit-il, s'aime lui-même, verset 28. Ensuite, il dit, verset 30, il dit, nous sommes, dit-il, membres de son corps. Voilà. Voyez-vous, je répète, si vous lisiez ces choses les yeux ouverts, vous verrez que le mariage n'est qu'un symbole ici. Certes, le Christ nous donne les recommandations nécessaires pour rester heureux en famille. Mais en plus de cela, pour rester heureux en tant qu'humanité, le mariage est une sorte de type, pour ainsi dire, notre mariage entre le Christ et nous en tant que membres de l'Église. L'Église de Dieu est le corps du Christ. Il dit, c'est pourquoi, dit-il, l'homme et la femme s'attachent l'un à l'autre. Verset 32, ce mystère est grand. Ah, quel est ce mystère? On parle de quoi? On parle justement de ce que je vous dis en ce qui concerne le mystère. Voyez-vous, les gens ne comprennent pas. Ils lisent Éphésiens 5, oh, ça c'est mariage, je ne m'intéresse pas. Non, ce mariage est notre transformation d'être physique que nous sommes en être physique que nous serons. Il dit, ce mystère est grand. Cela, je dis cela, dit-il, par rapport à Christ et à l'Église. Et vous, voici les enseignements du Christ. Et maintenant, mes frères et mes sœurs, regardez autour de vous. Où en êtes-vous? Si vous étiez membre de l'Église de Dieu il y a 10 ans, quels sont les progrès que vous avez faits? Réfléchissez, je vous prie, car la question est importante. Avez-vous progressé vraiment au sens biblique? Êtes-vous aujourd'hui meilleur qu'il y a 10 ans? Votre attitude est-elle meilleure? Votre compréhension est-elle plus profonde? Pouvez-vous dire que les gens vous aiment davantage? Pouvez-vous dire que vous vous énervez moins, vous vous fâchez moins, et que vous êtes plus soumis à Dieu? Si la réponse n'est pas affirmative, pourquoi pas? Comment pourriez-vous dire que vous pouvez entrer dans le royaume de Dieu? Nous devons progresser pour entrer. Vous direz, mais j'ai tellement de difficultés. D'accord, tout le monde a des difficultés. Nous sommes tous soumis à des épreuves. Mais nous devons avoir le courage nécessaire pour lutter contre l'adversaire et la foi nécessaire en Christ, car nous savons que le Christ nous aide. Courage, foi, foi, courage. Eh oui, un jeu de mots si vous voulez. Si vous êtes courageux, vous avez la foi. Si vous avez la foi, vous êtes courageux. Ce n'est pas toujours facile, d'accord. Mais ça sort des excuses. La vie est difficile pour chaque personne d'une façon ou d'une autre. Vos épreuves peuvent être différentes, mais à chacun, ces épreuves sont pénibles. Donc, faites comme le Christ a fait. Vous pensez que le Christ avait la vie facile sur cette terre? On l'a blasphémé, on l'a accusé de mensonge. On a dit toutes sortes de mensonges à son sujet. On l'a traité de buveur, de tout ce que vous voulez. Et pourtant, le Christ a tenu le coup. Lui, le Créateur suprême, qui était parfait, qui a reçu ses reproches sans perdre foi, sans perdre courage, de quel droit nous-mêmes, nous ne pourrions pas, nous ne devions pas suivre son exemple? Surtout, c'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous donne le Saint-Esprit pour avancer. Nous allons avoir en quelque sorte l'attitude des trois Hébreux dans Daniel chapitre 3, je pense. Oui, laissez-moi citer. Daniel 3, verset 16. Il y avait Shadrach, Meshach et Abednego qui devaient résister à l'ordre du roi qui voulait qu'on adore une statue qui n'est pas Dieu, évidemment. Et ils disent au roi, verset 16 à 18, Daniel 3, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus parce que le roi voulait qu'ils obéissent à son ordre. » Ils ont dit « Nous n'avons pas besoin de te répondre à ce sujet. » Pourquoi? Parce qu'eux, ils savaient que leur Dieu, c'est-à-dire le Christ que nous adorons, était plus fort que tout ce que le roi pouvait imposer. Voici, dit-il, verset 17, « Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il va nous délivrer. » Voilà la foi dont je vous parle. Voilà le courage. Sinon, dit-il, verset 18, là encore le courage maintenant, « Sinon, au roi, que sache que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Voilà la foi, voilà le courage dont je vous parle. Si nous avons cette attitude, mes frères et mes sœurs, votre vie changera. Certes, vous ne pouvez pas y arriver, personne ne peut y arriver, mais vous serez une lumière aux autres. Lorsque les gens vous regardent, ils sont inspirés à vous regarder. Parce que vous serez pour eux un exemple de courage. C'est ça le christianisme. C'est ce que le Christ a dit que nous devons être pour chacun lumière. Le sel de la terre, a-t-il dit. Et prenez maintenant le Nouveau Testament. Après la mort du Christ, il y a eu énormément de persécutions auprès du christianisme. Les apôtres du Christ étaient persécutés. Le frère de Christ, Jacques, a été décapité, ainsi de suite. Et à un certain moment, les Juifs, à l'époque, les Sadducéens, les membres qui rejetaient le Christ, ils persécutaient tous les chrétiens. À un certain moment donné, voyez-vous, il fallait ou bien rejeter le Christ, ou bien alors perdre sa vie. Et les apôtres du Christ ont dû passer par cette expérience. Actes chapitre 5. Donc lorsque la persécution a commencé, au verset 26, alors le commandant partit avec les huissiers, les conduisit les apôtres donc sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple, après qu'ils eurent été amenés en présence du Sanhédrin, verset 28, ils leur ont dit, nous vous avons défendu expressément d'enseigner au nom du Christ. Et voici, dit-il, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Mais vous, ils savaient qu'ils étaient coupables du sang de Christ. Non pas seulement ils se défendent, maintenant ils défendent aussi aux apôtres de prêcher au nom du Christ. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre a répondu? Voilà la base, voilà la foi dont je vous parle, voilà le courage dont je vous parle. Verset 29, acte 5, chapitre 5. Acte 5, chapitre 26, je m'excuse. Acte 5, 26, verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mes frères et mes sœurs, mettez ça dans votre tête. Mettez ça dans votre esprit à chaque instant de votre vie. Devant chaque épreuve, face aux tribulations, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Certes, le caractère humain est faible, mais Dieu n'est pas faible. Certes, nous ne pouvons pas lutter, mais Dieu peut lutter. Faites confiance à Dieu, comme les trois Hébreux. Laissez Dieu faire les choses. Dieu fera. Alors, pour grouper maintenant tout ça, où en sommes-nous? Galates chapitre 5. En fait, l'épître de Paul aux Galates a produit pas mal de discussions au sein du christianisme. J'ai souvent dit, et je répète, durant toutes ces années de prédication que j'ai faites à la radio, parfois à la télévision, et tous les sermons que j'ai donnés, j'ai remarqué une chose. J'ai remarqué une chose, que les gens prennent l'apôtre Paul en tant que leur symbole, leur idéal, en tant que le chrétien parfait, et ils mettent sur l'apôtre Paul toutes leurs excuses pour ne pas obéir à Dieu. Je m'explique. Paul a écrit dans ses écrits, qui n'est pas vrai, que le sabbat n'est plus valable. Autrement dit, ils trollent l'écriture de Paul, ils disent, puisque Paul a dit, le sabbat n'est plus valable. C'est ridicule, c'est idiot, mais c'est leur excuse. Paul a dit, on peut manger de toutes les viandes. C'est pas vrai, mais ils trollent l'écriture de Paul, et voilà que maintenant ils disent, l'Ancien Testament n'est plus valable. Paul a dit que la loi a été terminée. Ah, dans ce cas-là, les 10 commandements ne sont plus valables. Il laisse de côté que le Christ a dit que la loi ne peut pas être abolie. Mais bon, autrement dit, ils tordent les enseignements de Paul, ils prétendent ceci, ils prétendent qu'ils suivent Paul, alors que Paul a dit « Suivez-moi comme moi-même je suis le Christ ». Voyez-vous, voilà où les difficultés commencent avec les prétendus chrétiens. Si vous êtes honnête, vous devez reconnaître que Paul n'a rien dit, n'a rien prêché, qui serait contraire aux autres apôtres, aux paroles du Christ. Il a dit, à sa façon, d'après son style, que les gens mal informés tordent. Mes frères et mes sœurs, Paul, si Paul était aujourd'hui vivant, il en serait horrifié. Mais c'est Satan qui a fait, c'est Satan qui tord l'esprit des gens. Une chose, je vous dis, que vous soyez dans l'Église ou non, aucun des écrits de l'apôtre Paul ne contredit le reste des écrits de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Je répète, aucun. Aucun des écrits de l'apôtre Paul ne contredit ce que le Christ a dit. Aucun des écrits de l'apôtre Paul ne contredit l'importance, la valeur des Écritures de la Bible, car Paul a dit lui-même, de Timothée 3, verset 16, il dit, toute écriture, toute. À l'époque, le Nouveau Testament n'existait même pas. Et toute écriture est l'esprit de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour nous mener vers le Christ, vers la vie éternelle. Voyez-vous, ça c'est la vérité, c'est la simple vérité. Vous pouvez tordre si vous voulez, mais le fait est que ça, c'est une vérité, on ne peut pas changer. L'Esprit de Dieu nous donne le caractère divin. Galates chapitre 5, verset 22. Je ne vais pas entrer dans les détails. C'est marqué, le fruit de l'Esprit de Dieu, c'est quoi? C'est la paix, c'est la jouissance, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la fidélité. Autrement dit, ces caractères sont les fruits de l'Esprit de Dieu. Nous devons avoir ces fruits, mes frères et mes soeurs. Nous devons produire ces fruits. Et l'apôtre Paul dans Galates, je répète, cet épître de Galates est devenu presque un document entre les mains des prétendus chrétiens qui prennent l'épître de Paul de Galates pour montrer que Paul a dit que les lois ne sont plus nécessaires. Que les 10 commandements ont été crucifiés. Lisez Galates 3, lisez Galates 4. Tout ce qui a été crucifié sur la croix, c'était le Christ, pas les 10 commandements. Le Christ pour les péchés de l'humanité. Commencez-vous à comprendre. Vous savez, je voulais terminer, je ne sais pas si j'ai le temps d'entrer dans ces détails, avec l'attitude d'un vrai chrétien. Peut-être je toucherai juste quelques mots avant de terminer, car le véritable amour, dit la Bible, ne connaît pas de crainte. Alors, examinez-vous vous-même. Que craignez-vous? Je dirais même, qui craignez-vous? Examinez-vous-même. Lorsque vous vous couchez ce soir, quels sont vos doutes? Quelles sont vos craintes? Quels sont vos soucis? Lorsque vous vous levez le matin, à quoi vous attendez-vous? Alors, tout ça, c'est mal dirigé. Je pourrais dire ceci. Lorsque vous vous couchez ce soir, pensez au Christ. Pensez à son amour. Pensez à ses promesses. Et dormez d'esprit tranquille. Lorsque vous vous levez le matin, oubliez votre travail, oubliez les soucis. Pensez au Christ, à ses promesses, à sa bonté. Mettez l'accent sur ça. Et ensuite, certes, pensez à votre travail, mais d'une façon positive. Comme les trois Hébreux qui ont dit, nous obéirons à Dieu quoi qu'il arrive. Voilà la différence. Voilà ce qui vous rend chrétien. Ce faisant, voyez-vous, vous ne craignez rien. 1 Jean chapitre 4, verset 18. C'est magnifique, c'est beau, c'est formidable. L'apôtre Jean écrit, « La crainte n'est pas dans l'amour. » On parle maintenant de l'amour parfait du Christ. « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait, voyez-vous, bannit la crainte. » Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Autrement dit, si vous vous soumettez à Dieu, le châtiment divin, c'est son amour pour vous. Mes frères et mes sœurs, écoutez, réveillez-vous. Je sais qu'il y a toutes sortes de mensonges au sujet de la Bible. Je sais qu'il y a toutes sortes de mensonges au sujet même de l'Église de Dieu vivant. Je sais qu'il y a des rumeurs, des calomnies. Séparez-vous de ces bruits. Vous êtes responsable devant Dieu chacun individuellement. Prenez cette Bible en tant que votre livre de chevet. Lisez-la. Étudiez-la. Croyez-la. Voyez-vous, l'Église de Dieu aujourd'hui n'est pas une grande Église. Et quoi que vous disiez, vous pensiez, elle ne sera jamais une grande Église. L'Église fera des œuvres grandes, d'accord, pas elle, mais le Christ. Les œuvres que quelqu'un d'entre nous peut faire, la grandeur de ces œuvres, c'est le Christ qui en est responsable, pas l'individu même. On n'a pas besoin d'être nombreux. Là encore, qu'entendez-vous par nombreux lorsque vous avez 6 milliards d'hommes sur cette terre? Je ne sais pas. Mais regardez pour terminer ce que le Christ a dit dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, verset 22. Luc 12, 22. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi, dit-il, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Et pourtant, c'est ce que nous faisons le matin, le soir, toute la journée. Il y a une différence entre s'inquiéter et ne pas s'en occuper. Je dois m'en occuper sans m'en inquiéter. Il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que vous serez vêtu. Il dit, la vie est plus que la nourriture, verset 23, Luc 12, le corps plus que les vêtements. Ensuite, il donne l'exemple des corbeaux, voyez-vous, verset 24, c'est intéressant. La Bible vous donne des exemples physiques. Il dit, les corbeaux, considérez leur exemple, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, Dieu les nourrit. Cet exemple, pour moi, c'est frappant. Dieu nourrit des corbeaux qui n'ont ni cellier ni rien, ni grenier. Combien, dit-il, ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Voilà des exemples que nous devons nous méditer. Voilà des exemples que nous devons penser lorsque nous sommes abattus. Êtes-vous malade? Lisez cette phrase. Dieu s'intéresse à vous plus que vous ne pensiez. Êtes-vous triste? Êtes-vous seul? Êtes-vous je ne sais pas quoi? Dieu s'intéresse à vous. Vous valez plus que ces autres créatures terrestres, voyez-vous. Ensuite, il dit « Cherchez », verset 29, Luc 12. « Cherchez », dit-il, « ne cherchez pas ce que vous mangez, etc. »« Cherchez », dit-il, plutôt, verset 31, « le royaume de Dieu ». Voilà ce dont nous parlons. « Allez-vous entrer dans le royaume de Dieu ?» Le Christ dit « Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Voilà une vérité que vous, moi, nous avons des difficultés à comprendre. Vous savez, je voudrais pas mal de choses dans ma vie, humainement parlant. Si ces choses sont bonnes, Dieu me les donnera. À une seule condition, que je cherche premièrement le royaume de Dieu. Comment y entrer? Et alors, toutes ces choses, dit-il, me seront données par-dessus. Chaque fois lorsque je me trouve personnellement devant un refus divin que j'aurais voulu avoir, je dirais bien, eh bien, c'est peut-être pas la volonté de Dieu. Si c'est la volonté, ça va s'accomplir. Si c'est pas la volonté de Dieu, eh bien, je peux m'en passer. Ce faisant, voyez-vous, je mets ma confiance en Dieu. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ensuite, il termine, verset 31, « Ne crains point, dit-il, petit troupeau. » Voilà, nous sommes petits troupeaux. Un petit troupeau peut faire grande chose parce que le Christ est le berger, mais ce n'est pas le nombre qui compte. C'est le petit troupeau, leur attitude sous la force du Christ. Il dit, « Ne crains petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume de Dieu. » C'est une promesse divine. Je vous ai posé au commencement de ces deux sermons consacrés à ce sujet, entrerez-vous dans le royaume? La réponse, un peu différente, c'est que Dieu veut que vous entriez dans son royaume. Dieu fera tout pour que vous entriez dans son royaume. Dieu, franchement, si je puis dire, se plierait en quatre pour que vous puissiez entrer dans son royaume. Tout dépend de vous, de votre attitude, de votre caractère, de votre force, de votre foi, de votre désir, de votre soumission à Dieu en toutes choses. Mes frères et mes sœurs, oui, vous entrerez dans le royaume de Dieu si vous faites la volonté de Dieu.